L'hebdo politique.
Bonsoir, bienvenue dans l'hebdo politique numéro 3. Vous êtes sur Radio Sensation et ce soir je reçois Driss Etazaoui, conseiller municipal, vice-président à la politique de la ville de l'Aglo d'Evreux, porte de Normandie.
Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique.
Monsieur Etazaoui, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez 44 ans, vous êtes papa de 5 enfants, titulaire d'une maîtrise de sciences politiques. Vous êtes élu du MoDem. Vous avez été directeur de la cohésion sociale à Mantes-la-Jolie en région parisienne, puis au sein du comité de l'agglomération des deux rives de Seine dans les Yvelines. On en reparlera un peu plus tard. Et puis vous avez aussi compétences importantes au Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance de l'Aglo d'Evreux.
L'hebdo politique sur Sensation Normandie.
Une première question qui pourrait paraître comme une boutade à en croire certains de vos amis politiques, à n'en pas douter, Driss Etazaoui aurait pu être de gauche. Comment vous le prenez ?
Bon, écoutez, en tout cas, ce qui est clair, c'est que je ne le prends pas comme une insulte. Si on considère qu'être de gauche, c'est d'avoir une part d'humanité et être soucieux du quotidien de nos concitoyens. Si être de gauche, c'est privilégier un certain nombre de valeurs de la République telles que la fraternité et l'égalité, j'ai pas de difficulté à pouvoir me revendiquer de gauche.
Mais aujourd'hui, le choix ne s'est jamais présenté.
Non,
j'ai jamais. Votre carrière politique.
Absolument pas. Mon choix était centriste, parce que je voulais pas être enfermé dans un carcan. Voilà, ouais. Donc je suis centriste parce que je pense qu'effectivement il y a des talents à droite comme il y a des talents à gauche, qu'il y a des bonnes idées à droite comme à gauche, et puis il y a aussi probablement des cons à droite et à gauche. Tout donc à je crois que les écuries politiques ne sont pas l'apanage d'un profil type.
Vous avez récemment été invité à l'Élysée pour y rencontrer la conseillère du chef de l'État afin de préparer un rendez-vous important avec le chef de l'État Emmanuel Macron, avec plusieurs de vos collègues et membres du bureau de l'association des maires, villes et banlieues de France. Vous deviez aborder notamment les suites liées à l'appel de Grigny. S'agissait de quoi en particulier ?
Alors absolument, vous avez raison. J'ai la chance d'être vice-président de l'association des maires, villes et banlieues de France, qui regroupe l'ensemble des élus pour qui, dans leur collectivité, sur leur territoire, on a ce qu'on appelle des quartiers prioritaires ou des quartiers populaires, des quartiers qui concentrent de grandes difficultés urbaines, économiques et sociales. Et donc, cette association œuvre, fait l'interface entre les territoires et puis l'État. En particulier. L'appel de Grigny, vous avez raison d'en parler. Vous le savez, le gouvernement, durant la période estivale, a pris deux mesures importantes avec des conséquences fâcheuses pour les territoires qui sont les nôtres, pour les territoires les plus vulnérables. Ces deux décisions sont, un, la diminution significative des contrats aidés, et deux, la baisse significative des crédits de la politique de la ville, c'est-à-dire des moyens financiers en matière de subventions que l'on octroie aux opérateurs associatifs. Dans un cas comme dans l'autre, ces deux mesures ont été soudaines et donc brutales, et elles sont venues gréver l'offre de services proposée d'une part par les opérateurs associatifs, par le tissu associatif, mais également par les collectivités territoriales. Et donc, nous avons souhaité tirer l'alarme avec mes collègues de l'Association des maires villes et banlieues de France, et nous avons signé, aux côtés de 150 élus de France et de Navarre, un appel, un manifeste à l'attention du président de la République, lui disant quelles seraient les conséquences si effectivement la question des contrats aidés n'était pas revue à l'aune des territoires les plus vulnérables et donc des territoires qui en ont le plus besoin.
Alors 40 ans de politique de la ville, c'est quelque chose qui vous touche. C'était mieux avant. Il y avait le plan ANRU lancé par Jean-Louis Borloo. On avait eu beaucoup d'espoir. Et qu'est-ce qui n'a pas marché dans certains quartiers et pourquoi ça marche dans certains quartiers et pas dans d'autres ?
Alors, si j'employais l'expression « c'était mieux avant », je pense que tout de suite, je passerais pour un vieux con. Donc, je ne dirais surtout pas que c'était mieux avant. C'était peut-être autrement avant. Vous parlez de la rénovation urbaine impulsée par Jean-Louis Borloo, notamment la création de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Il est vrai qu'à l'époque, grâce aux moyens significatifs octroyés par l'État et par Jean-Louis Borloo, à l'époque ministre de la Ville, a permis de repenser le quartier au sein de la ville au sein de son agglomération, de façon significative, en imaginant les réaménagements nécessaires, en imaginant des équipements structurants, en imaginant une nouvelle mobilité. Et donc, on a réussi, en tout cas, le renouvellement urbain a permis de décloisonner pour partie ces quartiers-là et d'améliorer pour partie également leur attractivité. Mais ce n'était pas suffisant. On a travaillé beaucoup sur l'urbain, on a travaillé très peu sur l'humain. Et on ne peut pas considérer l'urbain sans considérer l'humain. C'est l'humain qui doit être au centre de tout, pas l'urbain.
On a embelli les beaux immeubles de la Madeleine à Évreux, mais on n'a pas résolu le problème notamment des jeunes et du chômage, c'est ça?
Oui, alors absolument, vous avez raison sur ces quartiers-là, sur le quartier de la Madeleine d'Évreux, qui est quand même un quartier qui fait 17 000 habitants, qui est carrément une petite ville dans la ville. Le taux de chômage est 2 à 3 fois plus important que sur le reste du territoire, le reste du territoire de la ville ou même de l'agglomération. Et donc, je vous le disais tout à l'heure, les problématiques sont concentrées sur ces quartiers-là. Mais au-delà de l'emploi, il y a quand même une première gageure, celle que nous avons relevée, qui est celle de la République, c'est celle du peuplement. C'est comment on fait ensemble pour diversifier le peuplement sur ces quartiers-là. Voilà. On ne peut plus se contenter d'avoir des cages d'escalier où est-ce qu'on a des concentrations de pauvreté, où est-ce qu'on a des concentrations ethniques qui font progressivement nos quartiers des ghettos. Et il faut absolument qu'on puisse, un, imaginer des logements à taille humaine, et deux, au sein de ces logements, donc au sein de ces boîtes, il faut travailler sur l'humain et faire en sorte que le peuplement soit une réalité et faire coexister finalement c'est la fameuse mixité sociale, mais une mixité culturelle également sur ces quartiers-là. Et ça, c'est tout le pari de la République demain.
Le ministre de la Cohésion des Territoires a dit s'engager aux côtés du ministre du Travail pour, entre guillemets, sanctuariser les contrats aidés dans les territoires les plus vulnérables. Ça veut dire quoi? Plus d'écoute et moins d'argent ou...
Alors, c'est quand même la victoire que nous avons remportée. C'est une petite victoire et je pense tout de même à l'ensemble des autres territoires qui ne sont pas des quartiers prioritaires, qui ne sont pas les quartiers populaires, pour qui la question des contrats aidés sera une vraie difficulté. Je pense par exemple à un président de club de foot sur l'agglomération d'Évreux qui m'appelle et qui me dit qu'il a du mal à trouver le sommeil parce qu'il a 250 gamins. Ces 250 gamins sont aujourd'hui encadrés par des contrats aidés et que si demain, effectivement, il n'a plus de contrats aidés, c'est le club de foot qui met la clé sous la porte, clairement, parce que les bénévoles ne suffiront pas à animer, à encadrer et à accompagner ces jeunes enfants. Donc j'ai d'abord une pensée pour tous ces territoires, finalement, qui vont voir leur contrat aidé supprimé. Maintenant, concernant la victoire qui est la nôtre, puisqu'on a réussi effectivement, non pas à faire plier, mais en tout cas à rendre raison au gouvernement sur la question des contrats aidés sur ces territoires-là, on ne pouvait pas continuer à fragiliser des territoires qui étaient déjà fragilisés. Et donc la question des contrats aidés, nous et mes collègues de Ville et Banlieue pourraient également vous le certifier, parce qu'on a beaucoup de discussions entre élus locaux, des échanges de pratiques, capitalisation de savoir-faire. Et ce que je peux vous dire, c'est que les contrats aidés ne sont pas les contrats aidés dont nous parle le gouvernement, avec des contrats aidés qui sont, eux, finalement, ne permettent pas une pérennisation dans l'emploi. Nous, on s'inscrit en faux sur cette assertion. Nous, on pense que les contrats aidés permettent finalement à celles et ceux qui en bénéficient, ils ne sont pas que des jeunes, hein, ça bénéficie aussi pour beaucoup à des seniors, pour beaucoup à des personnes handicapées, mais également pour des jeunes, sans qui... Enfin, je veux dire, s'il n'y avait pas cette aide de l'État sur ces contrats-là, les entreprises, que ce soit le secteur marchand, les associatifs ou les collectivités sur le secteur non marchand, ne recruteraient pas sans l'aide de l'État. Donc ce serait autant de personnes qu'on aurait sur le carreau. Et l'idée, c'est que sur ces contrats-là, on puisse effectivement les maintenir sur les quartiers prioritaires. C'est donc le sens du courrier rédigé, co-signé par les deux ministres, Pénicaud et Mézard, qui invitent les préfets effectivement à sanctuariser les contrats aidés sur ces quartiers-là. C'est une petite victoire, mais elle est importante pour nous et pour nos territoires.
Dans les tuyaux, il y a aussi la création d'emplois dits francs. Autrefois, il y avait les zones franches. Qu'est-ce que ça va changer, là?
Oui, alors ça, c'est quand même toute la difficulté, toute l'ambiguïté de ce gouvernement qui nous dit, écoutez, les contrats aidés, ça ne fonctionne pas, il faut arrêter. Et finalement, on nous sort les emplois francs, qui sont des emplois aidés, les emplois francs. Ce sont des emplois qui sont subventionnés. 5 000 euros par tête et par an. Ouais. C'est ni plus ni moins qu'un emploi, finalement, pour lequel l'État accepte d'octroyer une prime à l'emploi pour chaque personne recrutée, chaque personne domiciliée sur les quartiers. Alors, quel que soit son sexe, quel que soit son âge, etc. À partir du moment où, effectivement, ils peuvent justifier être domiciliés sur les quartiers prioritaires, ils ont le droit à cet emploi franc. Bon, écoutez, moi, je pense que dans l'intention, c'est plutôt une bonne mesure. Néanmoins, sous l'ère Hollande, on a bien vu les limites du dispositif, parce qu'on n'en a eu que 240 sous tout le quinquennat. Donc, on attend de voir quelles sont les modalités possibilité d'application de ces emplois francs, mais ils viendront en tout cas compenser la question des contrats aidés sur le secteur marchand. Puisque vous le savez, le gouvernement est passé de 490 000 contrats aidés en 2016, un petit peu plus de 310 000 sur l'année 2017, et il nous dit qu'en 2018, il y en aura 200 000. Et sur ces 200 000-là, on sait très bien qu'ils seront concentrés quasi exclusivement sur le secteur non marchand. Donc de venir compenser sur le secteur non marchand des emplois aidés, en quelque sorte. Bon, écoutez, moi, sur le principe, pourquoi pas, attends de voir quelles sont les modalités d'application.
Est-ce qu'on doit croire certaines mauvaises langues politiques qui disent que la suppression des contrats aidés avait déjà été dans les tuyaux sous l'ère Valls et Hollande?
En tout cas, ce qui était clair, enfin, ce qui est clair aujourd'hui, c'est que c'était pas dans le programme d'Emmanuel Macron. Donc, c'est pour nous tous, c'est une surprise. C'est-à-dire que jamais, au grand jamais, enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas le souvenir, mes collègues non plus, Emmanuel Macron n'a dit ou n'a expliqué les raisons pour lesquelles, s'il serait élu président de la République, il diminuerait de manière significative la question des contrats aidés. Ensuite, je ne sais pas si ça a été la question, enfin, en tout cas, je vous dis, 496 000 ou 495 000 sous l'ère Hollande en 2016, 310 000 sur cette période de transition entre Hollande et Emmanuel Macron, et demain 200 000. Donc on perd quand même plus de 200 000 contrats aidés hein, en moins de 3 ans.
Il y a eu récemment un rapport des comptes au niveau de la région Normandie qui disait que le département de l'Eure en particulier dépensait beaucoup trop pour le social et pour les aides, notamment pour le RSA. Ça, c'est encore un cheval de bataille qui revient pour la droite. Est-ce que c'est une image qu'il va falloir un jour arrêter de mettre devant les yeux d'un certain électorat et un certain public, parce que certains s'en servent à dessein et des fois pour des mauvaises raisons? Le social ne plombe pas les finances de tous les départements de France, enfin, en tout cas dans l'Eure.
Oui. Il y a beaucoup de populisme. Vous avez raison de le souligner. On est toujours le pauvre de quelqu'un. Et on a toujours tendance finalement à taper sur les petites gens, sur ce que d'aucuns appelaient la France d'en bas, d'autres la France des descendants de manière méprisante. Moi, je pense que la France, la République, a un devoir de solidarité. Et comme pour la politique de la ville, au-delà de l'égalité, c'est l'équité qu'on doit viser. C'est-à-dire qu'on ne doit pas donner la même chose à chacun, mais qu'on doit donner à chacun en fonction de la situation qui est la sienne. Voilà. Et une fois qu'on a intégré ce principe de solidarité qui doit tous nous muer les uns les autres, écoutez, je pense que l'autre valeur qui est celle de la fraternité ne s'emportera que mieux.
D'accord. On passe tout de suite à la deuxième partie de cette hebdo politique.
L'hebdo politique.
Retour avec Idriss Etazaoui, conseiller municipal et vice-président de la politique de la ville de l'Agglo d'Evreux-Portes de Normandie. On va continuer notre cheminement au travers des questions qui sont d'ordre national mais qui touchent au plus près certaines communes. Le gouvernement a demandé récemment au préfet, je cite, d'être attentif à l'aide apportée aux associations. Donc est-ce que c'est un flicage de plus ou est-ce que c'est l'opportunité de ne laisser vivre que les assos dites utile. On commence déjà à cibler certaines associations qui ne font pas de bruit, etc.
Je crois qu'il y a un principe de réalité qui est que les collectivités, les bailleurs de fonds, je pense aux villes, aux départements, aux régions,
les associations, mais également grèver les budgets des maires, on saurait quoi.
Non mais à Évreux, le budget associatif, c'est 2,5 millions d'euros. Donc c'est quand même important dans le budget d'une collectivité territoriale. Oui, il a probablement diminué, mais je suis incapable de vous dire de combien il a diminué. Mais il a diminué parce que les dotations baissent également. Parce que on a fait le choix aussi de ne pas augmenter la fiscalité. Alors quand on fait le choix de ne pas augmenter la fiscalité, parce que c'est un choix de campagne, eh ben, vous jouez sur les dépenses. Et donc naturellement, vous réduisez les dépenses. Et j'en reviens à la question que vous posez. Je pense pas que ce soit un flicage. Quand l'argent s'amenuise, quand les moyens se font de plus en plus rares, je crois qu'on a tous une obligation lié à l'évaluation des opérations que nous portons. Et nous devons dire dans quelle mesure est-ce que les financements que nous sollicitons, que les associations en particulier sollicitent, permettent une plus-value sur les territoires qui sont les leurs, sur les champs d'action qui sont les leurs. Et je crois que l'évaluation n'est pas seulement une obligation légale, mais elle doit être pour chacun d'entre nous une obligation morale. Que fait-on du moindre euro qui nous est consenti dans la manière de l'utiliser? Est-ce qu'il est bénéfique? Dans quelle mesure il l'est? ou est-ce qu'il ne l'est pas, et auquel cas on change son fusil d'épaule.
Vous le voyez, vous, au jour le jour, vous êtes au contact du milieu associatif sur Évreux en particulier. Vous avez aidé, je crois, d'une façon assez spectaculaire, une association. Vous avez mis 400 euros de votre poche, pratiquement, pour envoyer des enfants à la piscine. Est-ce que c'était un geste politique ?
Oui, alors vous allez peut-être pouvoir me dire que c'est ma fibre de gauche qui ressort sur le sujet.
Mais, c'était une association sur la Madeleine.
Non, c'était pas une association. On avait une difficulté, puisqu'on a une piscine sur un quartier prioritaire, qui est la piscine de la Madeleine. Voilà, c'est une piscine sur laquelle, en période estivale, on n'a pas beaucoup d'entrées. Et puis donc, le maire, dans une approche gestionnaire, à juste titre, hein, il est comptable de l'argent du contribuable, dit, est-ce que pour une dizaine de personnes, sur une pleine période du mois d'août, est-ce que ça vaut la peine de maintenir la piscine ouverte ou pas, quoi. Bon, une fois qu'on décide de la fermer, il faut aussi proposer des solutions, proposer des moyens, quoi. Parce qu'effectivement, il y a des questions liées à la mobilité. Et on a tout plein de gamins sur le quartier de la Madeleine pour qui, peut-être que se rendre d'un point A à un point B, c'est difficile parce qu'on a une deuxième piscine qui est en centre-ville. Donc voilà, moi, j'ai juste voulu accompagner, effectivement, les enfants qui le souhaitaient à se rendre de chez eux, du quartier de la Madeleine, à la piscine du centre-ville. Mais finalement, il n'y a pas eu de nécessité. Puisque le maire, dans sa sagesse, a su aussi écouter. Et donc, il a laissé la piscine ouverte sur cette période-là. Et donc, les gamins ont pu en profiter sans que je débourse un rond, finalement, pour mes tickets de bus.
D'accord. On sait que vous n'êtes pas, dans la politique des amis. Vous ne faites pas la politique politicienne, etc. Est-ce que, justement, ce genre de geste, ça vous conforte dans l'idée de faire la politique juste et autrement ? Quand je dis que vous n'avez pas des amis dans la politique, on en parlera tout à l'heure avec le préfet de l'Eure, est-ce que c'est une façon de faire de la politique juste et humaine ?
La politique, c'est la quête du pouvoir. Mais la quête du pouvoir comme un moyen et non une finalité. C'est-à-dire que vous ne recherchez pas le pouvoir pour l'avoir et pour vous en gargariser, mais vous cherchez le pouvoir justement pour pouvoir, pourquoi pas, présenter ou proposer des tickets de bus parce que votre indemnité de mandat le permet, et vous dites tiens, ça peut servir à quelque chose d'intelligent pour ceux qui n'ont pas. Quand je vous disais tout à l'heure que finalement il fallait une politique d'équité plus qu'une politique d'égalité, on est un petit peu sur ce sujet-là. Et donc, quand vous vous engagez, votre souhait, c'est d'être utile. Alors après, on peut s'engager ailleurs qu'en politique, d'ailleurs. Hein. Vous, en face de moi, vous êtes engagé dans le tissu associatif, c'est très bien. D'autres le sont également, je l'ai été aussi. Chacun trouve son engagement et chacun trouve son utilité. Parce que je crois que ce qui est important, demain et dans nos vieux jours, c'est d'avoir le sentiment d'avoir vécu et de ne pas avoir cette contenté d'exister. C'est ça, le sujet. Et moi, j'ai envie de terminer mon mandat en me disant que j'ai fait des choses utiles. Voilà. Et de pouvoir croiser les gens demain sur le marché et ailleurs, la tête haute, en leur disant « j'ai fait ce que j'ai pu ».
Est-ce que c'était utile, justement, c'est un peu paradoxal, d'avoir voté la fermeture d'un établissement scolaire ?
Nous, on ne vote pas la fermeture d'un établissement scolaire. Vous faites allusion au collège Pablo Neruda. Oui. Je vous rappelle, parce que vous voyez, c'est le genre de question aussi qui entretient la confusion. Les collèges sont de la compétence du département et pas de la municipalité. Donc c'est le département qui fait le choix, pour un certain nombre de raisons, de fermer un collège.
Très bien. Mais vous n'y êtes pas opposé ?
Je ne suis pas opposé. Je ne suis pas opposé parce que je pars d'un principe simple, celui de vouloir pour les autres ce que je voudrais pour mes enfants. Je ne peux pas vouloir pour les autres ce que je ne souhaiterais pas pour mes enfants. Le collège Pablo Neruda est un collège où la mixité sociale est totalement absente. Totalement. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, le collège Pablo Neruda n'est pas un collège qui produit des résultats. Vous regardez aujourd'hui le classement de ce collège, à l'échelle du département, on a 69 collèges sur le département, collèges publics et privés. Pablo Neruda, sur deux indicateurs, c'est le taux d'obtention au brevet corrélé au taux de mention. Sur ces deux indicateurs-là, Pablo n'est pas classé 30e, il n'est pas classé 50e, il n'est pas classé 60e. Pablo Neruda est classé 68e. Pourquoi je voudrais ce que les enfants des autres aillent dans un établissement là où je ne voudrais pas que mes enfants, mes propres enfants, aillent. Vous comprenez ? Donc, après, je n'ai pas la science infuse. Le sujet est tellement sensible. Je comprends aussi un certain nombre de parents d'élèves qui souhaitent le maintien de ce collège. Je l'entends. Et d'ailleurs, je les invite même à se battre. Je leur dis, vous avez raison, vous y croyez, vous faites comme moi. C'est-à-dire que vous avez un combat, allez jusqu'au bout. C'est comme sur l'accent des contrats aidés. On a eu gain de cause parce qu'on a été au charbon, parce qu'on s'est battu. Et vous, vous avez raison de vous battre. Parce que, chevillé au corps, vous avez une conviction. Mais en même temps, je ne partage pas cette conviction.
Qu'est-ce qu'on va leur proposer à la place ? Un autre établissement flambant neuf ou...
Alors, on va leur proposer plusieurs établissements, des établissements qui fonctionnent bien, des établissements qui produisent des résultats. C'est le collège Paul Bert, en plein centre-ville d'Évreux. C'est le collège de Navarre. C'est le collège Jean Jaurès, là où il y a ma fille. C'est aussi le collège, pour petite partie, le collège Paul Itzer, puisque c'est 30% Navarre, 30% Paul Bert, 30% Jean Jaurès et 10% au collège de Paul Itzer. À côté de ça, et la municipalité, parce que nous, une fois que le département prend sa décision, on doit aussi réfléchir à la manière dont on va accompagner les élèves sur les compétences qui sont les nôtres, et en particulier le transport. Donc, et le président de l'agglomération, et la présidente de Transurbain ont fait le choix de dédier pendant 4 ans gratuitement des navettes qui vont permettre de transporter les enfants du quartier de la Madeleine où ils sont domiciliés vers les collèges d'accueil. Sans navettes, sans détours, sans rien.
Le maire d'Évreux, je ne sais pas si vous comprenez un peu cette action, est en train, je crois, de monter un nouveau parti politique. Il prépare déjà les municipales. Enfin, c'est peut-être pas dans vos affaires, mais ça, est-ce que ça a bruissé jusqu'à vos oreilles ? Sébastien Lecornu veut faire la même chose au niveau du département. On prépare déjà les prochaines G-séances alors que celles-ci viennent à peine de s'achever.
Pour le maire d'Évreux, naturellement, imaginez que je suis au courant. Il y a quand même un certain nombre autour de lui et avant même qu'il communique sur le sujet, nous avions l'information qu'il souhaitait créer une dynamique locale. Il ne s'agit pas d'un parti, ou alors s'il s'agit d'un parti, serait le parti des Évreuxiciens. Voilà. Très local, très localisé, de créer une dynamique. Alors, le but, c'est pas seulement de créer une dynamique dans la perspective des élections municipales. C'est aussi le but. Vous avez raison. Mais c'est pas le seul.
Il en a parlé à Bruno Le Maire ou pas ?
Aucune idée. Alors, je suis pas dans les coulisses. Je suis incapable de vous dire. Là, pour le coup, il faudrait lui poser la question. Mais l'idée aussi, c'est de pouvoir solliciter, interroger, concerter, consulter les Évreuxiciens sur ce qui est bien, sur ce qui reste à faire, sur ce qui l'est moins. C'est aussi le sujet de ce parti aussi.
C'est un peu tôt quand même, non ?
Non, vous savez, on est à 2020, ça. 2020, si c'est maintenu, parce que vous savez, certains disent que ça pourrait être 2021. Si c'est 2020, c'est dans 2 ans. Ouais. Et la campagne, c'est dans 1 an. Donc les choses vont vite, ça s'accélère.
On va parler de vos collègues.
Quant à Sébastien Lecornu, j'ai appris, comme vous, dans la presse, qu'il créait également son parti à l'échelle du département.
Voilà, à l'échelle du département, un mouvement politique. L'engagement des parlementaires, pour la plupart des députés siglés En Marche, notamment dans le département de l'Eure, est-ce qu'elle n'est pas freinée par leur appartenance trop marquée à la nouvelle Macronie ? Que peuvent vraiment faire ces élus au sein d'un territoire rural ou d'une ville de moyenne importance ? Est-ce qu'ils ont encore véritablement un pouvoir ? En tout cas, pour le moment, on suit le mouvement.
Alors, moi, je veux croire qu'ils ont une importance parce qu'ils représentent le peuple quand même au sein de l'Assemblée et qu'ils portent la voix des territoires. Je l'ai vécu dans le combat sur la question des contrats aidés, sur la baisse des dotations et des subventions de par l'État. Je les ai et les uns et les autres interrogés. Et je les ai et les uns et les autres sollicités. Certains ont répondu présent, avec beaucoup de volonté. D'autres ont répondu présent. Et puis, il y en a certains qui étaient aux abonnés absents. Mais les uns et les autres... Mais c'est important, enfin en tout cas pour ceux qui ont répondu présent sur ce combat-là, puisqu'ils étaient concernés, je veux dire, ils le vivent sur leur territoire et sur leur circonscription. La question des contrats aidés, prenez la première circonscription, c'est 2 quartiers prioritaires, c'est le quartier de la Madeleine et le quartier d'Étreville. La deuxième circonscription, celle de Fabien Goutefard, c'est le quartier de Navarre aussi, quoi. Donc, que ce soit Fabien Goutefard, mais également les sénateurs Moret et Duranton, je peux vous dire que pour ces 3-là, c'est bien de le dire quand c'est bien, pour ces 3-là, ils sont montés au créneau, ils ont écrit, ils ont interpellé le ministre, le Premier ministre. Et donc, je pense que c'est autant de gestes qui, lorsqu'ils sont démultipliés à l'échelle de l'ensemble des parlementaires ou d'un grand nombre de parlementaires, eh ben, permettent effectivement d'obtenir la petite victoire qu'on a obtenue sur le maintien des contrats aidés sur ces quartiers-là. Donc non, ils ont leur importance. Et une dernière chose, puisque j'ai eu le congrès l'université d'été du MoDem, et effectivement, avec ma famille politique, sur cette question-là, je n'étais pas tout à fait raccord. Et donc, ça a été, pas conflictuel, mais ça a été quelque peu tendu. Et je leur ai dit qu'à mes amis, qu'à nos amis, on doit la vérité. Et donc, moi, je suis venu leur apporter une vérité sur la question des contrats aidés, sur la question des quartiers prioritaires. Donc, vous savez, on peut être au sein d'une même famille politique et avoir quelques divergences, quoi. Le tout étant de pouvoir se le dire, de pouvoir s'en parler, et ensuite d'en tirer les enseignements.
Vous êtes d'origine marocaine ?
Absolument.
Petite question. Un peu personnel. Mohamed VI, roi du Maroc, a ordonné récemment une enquête sur le dysfonctionnement de l'aide alimentaire qui a provoqué malheureusement le décès d'une quinzaine de personnes à Essaouira. Est-ce que le gouvernement marocain a mal à sa pauvreté ?
Alors,
c'est compliqué comme question.
Mais... Oui, non, mais c'est une question qui mériterait du temps pour être développée, pour parler de la situation du Maroc et des classes, et des différences de classes dans mon pays natal. Ce que je peux vous dire, c'est que le roi du Maroc a pris aussi une décision, peut-être qu'elle est passée inaperçue, mais il a limogé 5 ministres et 3 hauts fonctionnaires. C'était il y a 2 mois. Il y a 2 mois. Pourquoi ? Parce que dans les fiches de mission qui étaient le leur, en termes d'aménagement, les choses n'avaient pas avancé, ce qui avait valu au roi, d'ailleurs, des contestations dans la région du Rif, avec des importantes manifestations. Donc le roi, ni une ni deux, et d'ailleurs dans le discours du trône, il a eu des mots très forts, en disant aux élus locaux aussi, aux ministres et aux élus locaux, en leur disant « Attendez, ce qu'attend de vous la population, c'est un investissement total et sans faille. Et ce qui failliront à cet investissement, devront en subir les conséquences. » Et croyez-moi, après le discours du trône, 4 mois après, il limoge des ministres et des hauts fonctionnaires de manière à donner l'exemple. Bah pour ceux qui restent, non. Croyez-moi, ils vont faire attention.
Monsieur Tazoui, merci d'avoir accepté notre invitation. On espère vous retrouver très bientôt. C'est la fin de cette hebdo politique. Vous pouvez le retrouver en podcast sur notre site radiosensation.fr.
Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique.